Là. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette ville du Yémen qu'on appelle la Manhattan du désert et qui s'appelle Shibam aussi. Alors on l'appelle la Manhattan du désert parce qu'elle ressemble à Manhattan, à New York, avec ses gratte-ciels, 6-8 étages serrés les uns contre les autres. Manhattan, en plein désert du Yémen. Et c'est une ville qui date du XVIe siècle et qui a été reconstruite à l'identique selon les lois de construction de l'époque et les us et coutumes, avec de la terre mélangée et à de la paille. Au premier étage se trouvent les animaux. Au deuxième, la nourriture. Au troisième, les invités. Quatrième, les chambres, et au sixième, le mari, avec son épouse quand il le désire, parce que nous sommes en terre d'islam. Et il faut savoir que cette ville, qui date du XVIe siècle, a habilité cette cité, et 3 millions de dollars aussi pour la mettre hors eau, hors sec ou hors eau. Et voilà, une belle construction que Shibam, regardez, en plein désert, c'est magnifique. Mais va-t-elle résister au temps? Rien n'est moins sûr. Je vous invite à lire un passage de la Bible aux Corinthiens. Nous faisons une série. Pour ceux qui nous rejoignent ce matin, nous faisons une série de prédications, tous les dimanches ou presque. Nous parlons de cette lettre que Paul a écrite aux chrétiens de la bonne ville de Corinthe. Voilà ce qu'il dit au chapitre 3. « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume, ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce rappel par Olivier de tes noms. Tu es Yahvé Shalom, tu es Yahvé qui guérit Rapha. Mais tu es aussi le Dieu de la parole, le Dieu du Verbe. Et nous te remercions pour cette parole qui nous parle de ton amour, de ta justice, de ta volonté, qui nous parle de toi. Et même s'il y a parfois des passages un peu difficiles, comme celui-ci ce matin, nous te demandons, Seigneur, de l'accueillir, de le comprendre, de le prendre avec soi pour pouvoir le mettre en pratique. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint dans la prédication de ta parole et dans la réception que nous pouvons tous, moi y compris, en faire. Au nom de Jésus, le Logos de Dieu. Amen. Alors oui, nous faisons une série donc sur l'épître de Paul aux Corinthiens, épisode 4. Vous voyez Corinthe sur la carte et le canal de Corinthe. La première prédication, c'était, on insistait dans les salutations sur le mot, le verbe appeler, et qui revenait trois fois. Appeler à être apôtre pour Paul, mais appeler nous à être saints. Et j'aime bien la petite figure hein, du saint de la série télévisée des années 70. Mais on a été appelé à être saint, pas jouer à la sainte nitouche ou au petit saint, mais à être vraiment sanctifié par l'union avec Jésus-Christ. Christ est-il divisé? C'est le problème à Corinthe. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre, et les super-spirituels, moi, je suis de Christ. Mais des rivalités dans l'Église, un esprit partisan. Je vous adresse une recommandation instante. Vivez ensemble en parfaite harmonie. Et puis, troisièmement, Dieu serait-il fou à... En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, la folie de la proclamation de la croix. C'est fou, mais c'est fort. C'est fou, mais c'est puissant. Dieu serait-il fou à louer pour le mystère de la croix, pour cette folie de la croix? Oui, il est fou à louer. Et puis, aujourd'hui, avis aux bâtisseurs. Alors quand on lit la lettre de Paul aux Corinthiens, il faut bien se rappeler qu'il s'adresse non pas à toute la population de Corinthe, mais à l'Église de Corinthe, qui est rassemblée dans cette ville de Corinthe. Une Église que Paul a commencé quand il était à Corinthe, 10 ans plus tôt, maintenant il est à Éphèse et il écrit aux Corinthiens. Et vous avez remarqué que Paul parle de lui comme étant l'architecte. Alors on dit, mais il faut savoir, on se dit, Paul, architecte, bon, un peu présomptueux, hein, mais il faut savoir qu'à l'époque, architecte, c'est pas le concepteur des plans, c'est pas celui qui tire les traits, c'est celui qui est sur place, c'est le maître d'œuvre. Parce que l'architecte, le vrai architecte, ce serait Dieu, celui qui dessine, celui qui conçoit. Mais Paul est l'architecte dans le sens qu'il est le maître d'œuvre, enfin il est là sur le chantier, il a posé la première pierre sur le fondement Jésus-Christ. Et Apollos est venu après, et Apollos, dans l'église de Corinthe, a monté quelques murs aussi. Tous les deux ont travaillé à l'édification de l'église. Et vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu, tout le vocabulaire bâtiment du passage, édifice. Architecte, fondement, bâtir, habiter, détruire. On est dans l'édifice et même dans l'édification concernant le projet de Dieu de toujours, l'Église. Mais qui bâtit cette Église? C'est bien sûr Christ, et je rappelle ce texte magnifique de Jésus quand il répond à Pierre, « Pierre, tu es Pierre ». Et sur cette pierre, je bâtirai, le même verbe que dans 1 Corinthiens 3, je bâtirai mon église. Et en même temps, il semble bien que Paul participe à cette édification, que Apollos aussi participe à ce bâtissage de l'église. Et d'autres aussi. Et vous? Et toi? Est-ce que tu participes à ce grand projet de Dieu? De l'édification de l'Église? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu présomptueux de croire que je pourrais participer à l'édification de cette grande œuvre qu'est l'Église? Est-ce que c'est pas un petit peu fanfaron de dire que je pourrais apporter ma pierre à l'édification de l'Église? Non, c'est pas présomptueux, c'est biblique. C'est l'appel de Dieu à participer à l'édification de l'Église. Et tout le Nouveau Testament, parole de Dieu, nous invite à participer à cette grande œuvre. Et dans 1 Corinthiens 14, il est question des dons spirituels, dont on reparlera d'ailleurs, des dons spirituels, et tous ces dons spirituels, que tout soit fait pour l'édification de l'Église. Tous ensemble, pour l'édification de l'Église, avec nos dons, avec nos forces et faiblesses, avec nos personnalités. Et puisque nous sommes tous des bâtisseurs, ce texte de Paul nous concerne tous, même s'il s'adresse à une église de Corinthe dans un contexte tout à fait particulier. Il nous intéresse parce qu'il parle de l'édification de l'église et surtout des motivations qui peuvent être les nôtres comme nous sommes des bâtisseurs. Et la question des motivations est pertinente, n'est-ce pas ? Pour Shibam, on sait que la ville a été construite dans le but de défendre, de se défendre. C'est pour ça qu'ils avaient collé les maisons les unes avec aux autres. Pour Babel, la ville de Babel, c'était pour se faire un nom sous le soleil. Et on sait que la motivation pour les bâtisseurs change tout. Et donc cette question est primordiale pour la suite des événements, et peut-être pas seulement pour l'Église, mais pour tout ce que vous construisez, tout ce que je construis, pour tout ce que tu construis dans la vie, ou ta vie même. Quelles sont nos motivations pour construire une famille, pour construire un couple, pour construire une vie ? Avis aux bâtisseurs. C'est le titre de la prédication ce matin. Quelles sont les motivations ? Avec ce verset 10 qui sonne comme un avertissement, avis aux bâtisseurs, avertissement presque aux bâtisseurs, seulement que chacun prenne garde à la manière avec laquelle il bâtit. La première des motivations n'apparaît pas en premier lieu, mais au verset 17, quand Paul va utiliser un nouveau terme lié à l'architecture, le mot « temple ». Il y a deux termes en grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, pour parler du temple. Et Paul choisit le terme « temple » qui véhicule le mieux la notion de « sainteté ». Et il met l'accent sur la sainteté de l'endroit. Un mot, naos, qui signifie plus particulièrement le sanctuaire, le lieu saint, ou très saint même, comme dans le temple. Et d'ailleurs, le verset 17 le dit, son temple est saint. C'est presque une redondance, parce que dans le mot temple, il y a déjà la notion de sainteté. Le temple est saint, et vous êtes ce temple. La sainteté de l'endroit n'est pas liée à l'architecture, à la majesté des arcs-boutants ou de ses fenêtres en ogive, de ses portes, vous avez nos nouvelles portes, vous avez vu les ogives? Non. La sainteté de l'endroit est liée aux personnes qui sont là. La sainteté, c'est vous, c'est nous. Vous avec moi. Vous êtes le temple saint. La sainteté de l'Église est manifeste dans les personnes. Ce sont les gens qui font la sainteté de l'Église, puisque l'Église est le rassemblement des hommes, d'hommes et de femmes ordinaires qui font confiance en un Dieu extraordinaire, qui lui font confiance pour leur vie de tous les jours jusque dans l'éternité et qui le font en communauté. Il y avait le temple de Jérusalem, lieu sacré pour les Juifs, avec son lieu saint et son lieu très saint. Les temples grecs païens, pas mal non plus. Il y a maintenant la petite église pagano-chrétienne de Corinthe, qui est un temple saint habité par l'Esprit, comme toutes les autres communautés chrétiennes après elle. Ce n'est pas rien. Zacharie, le prophète, disait, c'est la prunelle des yeux de Dieu, l'église. Et tout d'un coup, tout ce qui touche à l'Église prend un sens très fort. On ne fait pas n'importe quoi avec. L'ouvrage demande de la qualité. Et donc, que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit et avec quels matériaux il utilise. Alors, quels matériaux pour bâtir ? Vous avez vu une image d'une maison, vous voyez peut-être pas de là, en torchis. J'aime bien ce mot, torchis. On peut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou au contraire avec du bois, du chaume, ou du torchis de paille. Il y a deux séries de matériaux. Il y a les nobles, de qualité, mais surtout résistants. L'or, c'est résistant. Le diamant aussi est résistant, les pierres précieuses. Et puis, il y a les autres, beaucoup moins nobles, pas très chers, mais aussi de basse qualité qui ne tiennent pas la distance. Alors, il faut surtout pas essayer de trouver des correspondants allégoriques pour chacun de ces matériaux. Mais ce qui est clair, c'est l'invitation de Paul à mettre de la qualité dans la construction, et la construction dans l'église, de l'Église en particulier, parce qu'elle en est digne. Et elle demande des matériaux de qualité parce que c'est un édifice de qualité. Faut pas hésiter à mettre ce qu'on a de plus précieux dans l'Église parce qu'elle le vaut bien. Pour ce qui est du bois, du torchis et autres chaumes, on peut penser que Paul a quand même en tête les rivalités dans l'église de Corinthe. Construire avec du bois, c'est fragiliser tout l'édifice en alimentant un esprit partisan où chacun essaye de tirer les marrons du feu. La guerre des partis où chacun défend les intérêts de son parti. On a eu quelques débats politiques à la télé. Bâtir avec du bois, c'est dans un esprit de rivalité. Bâtir avec du chaume, ce serait probablement introduire dans la construction de Dieu une autre divinité, une autre idole. Comme l'appelait Timothée Keller, qui parlait beaucoup d'idoles, et je vous en ai parlé ici. Et cette idole, c'est le moi d'abord. Bâtir avec du chaume, c'est pratiquer à l'intérieur de l'édifice un nouveau culte, le culte du « moi-je », du « moi tout seul », du « moi je sais », du « moi je sais tout », du « moi je me suis fait tout seul ». Bâtir avec du torchis, c'est laisser libre cours à l'esprit d'égocentrisme, c'est ouvrir les portes du temple à un esprit de rivalité, de compétition, de nombrilisme, de narcissisme, où on cherche à tirer la couverture à soi aux dépens des autres. Quelques exemples. Et la pointe de notre passage, eh bien celle-là, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie. Et dans la vie de l'Église, il faut choisir les matériaux avec soin parce qu'il s'agit d'une construction de qualité. Il faudra y mettre de la qualité, peut-être surtout en matière de relations dans cette Église. Il y a un pasteur réformé il y a quelques années qui avait fait un tour des églises presbytériennes de Corée du Sud. Et il a été époustouflé par les églises là-bas. La taille, vous savez qu'il y a eu une église, je ne sais pas si c'est encore le cas, qui avait 800 000 personnes, 800 000. Les méga-churches américaines rougissaient. 800 000 avec, je pense, 20 000 groupes de maisons. Bon, c'est dur à gérer, hein, 800 000 personnes, je ne sais pas comment ils faisaient, mais... Il avait été scotché par la taille et par aussi les installations. Et quand il faisait remarquer cela aux chrétiens de Corée du Sud, les Coréens répondaient « Rien n'est trop beau pour le Seigneur ». Alors, c'était le côté matériel, mais je pense qu'il y avait aussi toute l'Église dans les relations et tout l'engagement des chrétiens de Corée. En tout cas, pour Paul, c'est de cette qualité dont il s'agit, la qualité de notre investissement relationnel dans l'Église, de ce temple saint qu'est l'Église, d'où le sérieux des avertissements. Parce que vous avez lu des avertissements sérieux. Celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu le détruira. Ouh. On ne sait pas comment, mais c'est sérieux. Des avertissements qui paraissent très durs, mais qui ont en arrière-plan le formidable investissement de Dieu envers son Église. Car son temple est saint, vous êtes saints, et il a livré sa vie pour nous, pour son Église. Éphésiens 5. On ne rigole pas avec l'Église, même si on a le droit d'y rire. L'Église, c'est du sérieux, même si individuellement, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Deuxième motivation, parce qu'il y a de la récompense dans l'air. Alors, elle est sujette à discussion. Ce sont ces récompenses qui apparaissent au verset 14. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire ou sa récompense. Et cette notion de récompense a suscité beaucoup de questions, en particulier quand on pense à la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 9, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et non sans tenir compte des mérites de l'homme. Alors comment faire cohabiter ces deux notions, la grâce et les récompenses ? Alors pour certains, la seule récompense que l'on peut avoir, c'est, et il faudrait mettre un guillemet autour de récompense, c'est simplement le salut, la vie éternelle, la vie avec Dieu que l'on reçoit gratuitement par grâce. Et tous les versets qui parlent effectivement de récompense, il y en a quelques-uns dans le Nouveau Testament pour être compris dans ce sens. Par exemple, dans 1 Corinthiens 9, plus loin, il parle de la couronne incorruptible. La couronne, là, comme récompense, ben c'est effectivement la vie éternelle. Là. Mais, même si cette position est tout aussi défendable, il faut noter que le Nouveau Testament parle d'une façon claire de récompense. Nous avons par exemple la parabole des talents. Vous savez, les talents, il y en a, c'est Jésus qui raconte une parabole qu'un maître donne 5 talents. Alors, talent, c'est une unité de monnaie, c'est 10 fois le salaire annuel, un talent. Donc c'est une grosse somme, c'est un lingot d'or. Et ça n'a rien à voir, nos talents, avec les talents d'aujourd'hui, c'est une unité de monnaie. Il en donne 5, 2 et 1, ces talents. Et puis, on attend. Et Jésus semble donner une récompense à celui qui a fait fructifier ses 2 talents. Celui qui a fait fructifier ses 5 talents, oui. Celui qui a fait fructifier ses 2 talents aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, il y aura une récompense, mais celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Et on le voit, il n'est pas question de couvrir les gens de lingots d'or. Il n'est pas question de récompense matérielle. La récompense, c'est de partager la joie de son maître, d'avoir sa confiance pour aller plus loin dans l'aventure. Paul dit donc dans 1 Corinthiens 4, 5, « Car alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » La louange de la part de Dieu. Rentre dans la joie de ton maître, c'est là la récompense. Et donc, quand on parle de récompense dans la Bible, c'est toujours en rapport avec l'appréciation de Dieu, la louange qui peut venir de lui, la communion avec lui, la joie de Dieu. Mais les récompenses n'entrent jamais dans un contexte de compétition où il s'agit d'aller plus haut, plus loin, plus vite, pour avoir la récompense, souvent aux dépens des autres ou du voisin qui sera perçu comme un concurrent, non. Une compétition qui rappellerait le monde du sport ou le monde du travail, on n'est pas dans ce contexte. Quand la Bible nous parle de récompense, on est dans le contexte de la grâce, parce que ce sont des récompenses spirituelles. Deux illustrations pour vous parler de cette notion de récompense, si vous un jour vous tombez sur des textes bibliques qui en parlent. La première illustration, pensons au sport amateur, vraiment amateur, où il n'y a rien à gagner, vraiment pas d'argent. Je ne sais pas si ça existe encore, mais la seule récompense du sportif amateur consiste à garder la confiance de son entraîneur ou du sélectionneur et à être de nouveau choisi pour représenter son équipe. Voilà sa récompense. Je garde la confiance de mon sélectionneur si c'est un sport d'équipe. Et dans le sport amateur, c'est pas une récompense spirituelle, mais pour nous, elle l'est. L'entraîneur, c'est notre Dieu qui maintient sa confiance. Et puis, une autre illustration, c'est un ami pasteur, Frédéric Séparé, qui parlait pour cette question de récompense de coupes, de différentes tailles. Et toutes ces coupes, il y a des grandes coupes et des petites coupes et des moyennes, moyennes au milieu, des coupes moyennes. Mais elles sont toutes remplies. Alors, mathématiquement ou physiquement, elles n'ont pas la même quantité. Mais elles sont toutes remplies. Elles sont pleines à déborder, comme pleines jusqu'à déborder, comme dans le psaume 23, « Ma coupe déborde ». Grande coupe, coupe moyenne, petite coupe, mais toutes remplies par l'appréciation de Dieu. L'idée de récompense agit-elle comme une motivation? En étudiant un petit peu ce sujet, on s'aperçoit que Jésus, quand il appelle ses disciples à le suivre, ne leur dit jamais « il y aura une récompense ». Au contraire, quand il appelle ses disciples à le suivre, il met l'accent sur le coût, sur le prix à payer. Il va falloir que tu renonces à certaines choses. Il va falloir que tu prennes ta croix. Ça ne veut pas dire souffrir jusqu'à la croix, ça veut dire renoncer à certaines choses. Les oiseaux, enfin les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Venez. Mais parfois, Jésus parle de récompense à ses disciples, et il le fait quand ses disciples sont découragés. Quand ils peinent, il leur dit, vous savez, tout ce que vous avez investi pour moi, vous le recevrez au centuple. Vous voyez, c'est pas des récompenses pour motiver, c'est des récompenses pour encourager. Vous serez avec moi. Par contre, et on l'a vu, perdre sa récompense ou sauver comme au travers du feu, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on ne sait pas trop. Ça fait partie peut-être des questions que l'on aura, moi que je poserai en tout cas à l'apôtre Paul. Oui, il sera là. Qu'est-ce que tu voulais dire par sauver comme au travers du feu? Est-ce qu'on peut être sauvé tout juste, in extremis? Ah oui, j'ai lu une version anglaise qui traduisait « sauvé par la peau des dents ». On avait envie de dire autre chose, mais eux, c'est la peau des dents. Et ça n'aide pas beaucoup, d'ailleurs, à la compréhension du passage. Mais on pourrait traduire comme sortant d'une maison en feu, in extremis, tout juste. Mais comment peut-on être tout juste sauvé? La seule chose, on ne sait pas, mais la seule chose que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas la meilleure des choses que l'on a envie de vivre, tout juste, avec le pantalon qui fume encore, là, qui... Ça sent le roussi ici. Ah ouais? Non, ce qu'on a envie d'entendre, c'est rentre dans la joie de ton maître. Pas tout juste, rentre pleinement dans la joie de ton maître parce que tu t'es investi dans la vie chrétienne. Complètement. Et puis, dernière motivation, parce que Christ est tout ce qui compte. Et dans la dernière phrase qu'il va prononcer pour ce paragraphe, Paul efface d'un coup tous les soupçons que l'on pourrait avoir par rapport à une compétition, par rapport à des récompenses comme une carotte que l'on présenterait. Là, voilà, il y a des récompenses. Il balaye tous les soupçons en disant « Tout est à vous !» Tout est à vous, les amis, que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Pierre, que ce soit la vie, la mort, l'univers, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Et si on était dans le fermé des versets 14 et 15 avec cette question de perte de récompense, on est maintenant dans l'ouvert, le tout ouvert. Tout est à vous. Et si tout est à nous, c'est parce que Christ nous a tout ouvert. Nous a tout donné. Vous êtes à Christ. Pouh, élargissement de la vision. Et ce qui laisse à penser que tout n'est pas fini pour les Corinthiens, qu'il faut bien le dire, l'église de Corinthe vit des problèmes difficiles, mais tout n'est pas fini parce que ces Corinthiens sont à Christ. Et parce qu'ils sont à Christ, ils peuvent bâtir l'église de Corinthe dans la reconnaissance de ce que Christ a fait, le fondement de Christ. Ils peuvent le faire tranquille. Partout, parce que tout ce qui compte, c'est Christ, parce que tout est à vous. Et parce que vous êtes à Christ qui a tout ouvert, vous pouvez désormais bâtir l'église et tout le reste d'ailleurs. La famille, les relations, le couple, les amitiés, la vie professionnelle, tout simplement dans la reconnaissance. Merci à Christ. Et ça, ça change tout notre l'éthique de la reconnaissance, qui emporte sur son passage toutes nos mesquineries, tous nos petits calculs, toutes nos compétitions tellement humaines, toutes nos rivalités. La reconnaissance pour ce qu'a fait Christ. Nous sommes donc d'étranges bâtisseurs, des maçons entrepreneurs à qui le monde appartient, qui ont tout à eux, qui ont tout pour eux, et qui construisent, on va dire, en état des bâtisseurs, en état de grâce. On a l'habitude de voir des bâtisseurs qui le font par devoir ou pour le gain. Les bâtisseurs qui sont à Jésus travaillent en état de grâce, dans la reconnaissance. Car tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Voilà bien ce qui nous motive, nous les bâtisseurs des temps nouveaux, qui bâtissons sur la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, comme le dit encore l'Épître aux Éphésiens. Et quand je repense à ce passage, la largeur, la longueur et la profondeur, c'est aussi de la construction, hein, c'est du volume, c'est une fondation, ça. C'est du solide pour tout ce que nous allons bâtir par la grâce de Dieu. Bâtisseurs, bâtisseuses. Et je pense aux mamans, ce matin, aux grands-mamans qui bâtissent des familles. Bâtissons sur ce fondement éternel, Jésus. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.